La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Qu'est-ce que la foi ? Dieu souffre-t-il ? Bonjour. Qu'est-ce que la foi ? Nous en avions déjà un petit peu parlé dans une autre série d'émissions. Mais aujourd'hui, je voudrais articuler cette question avec la souffrance de Dieu. Dieu souffre-t-il ? Épineuse question, c'est le cas de le dire, en ces temps de carême, en cette fonction de la passion, et notamment évidemment de la couronne d'épines, vous avez compris mon jeu de mots, comment Maritain réfléchit-il sur la souffrance de Dieu ? On a l'habitude de penser depuis les conférences de Varillon sur la souffrance de Dieu, sur un Dieu qui est plus proche de l'homme, on va dire, et qui cette insistance donnée sur la joie. La souffrance, après le Concile Vatican II, a été peut-être un petit peu écartée au profit de la joie. Maritain, qui bien sûr a encouragé une évolution de Vatican II avec son ami le cardinal Journet, même si le paysan de la Garonne montre aussi les limites de Maritain par rapport à des traductions, notamment du credo, dans le passage du latin au français, ou à un risque de dérive, de confusion, ces pages contre Teilhard de Chardin, qu'il appelle le mythe de Teilhard de Chardin, et une confusion entre raison et interprétation. Toutes ces difficultés qui ont fait d'ailleurs la querelle autour du paysan de la Garonne permettent de lire Maritain comme un auteur attaché à la souffrance du Christ et notamment à la souffrance de Dieu le Père. Dans Approche sans entrave, qui est son œuvre posthume, qui vient récapituler différents écrits, une sorte de synthèse de ce qui restait un peu à éditer, Maritain pose la question de la douleur en Dieu. Si les gens savaient que Dieu souffre avec nous, et beaucoup plus que nous, de tout le mal qui ravage la terre, bien des choses changeraient sans doute, et bien des âmes seraient libérées. Alors, cesseraient peut-être d'être fermés et privés de sens pour elles les mots qui leur disent que dans cette miséricorde où nous est si chère, même si elle ne peut être nommée que métaphoriquement, la compassion par laquelle il nous prend dans son cœur et y fait sienne notre misère. Il a envoyé son Fils, factus homo, fait homme, souffrir et mourir pour nous. Ce paragraphe est étrange. On s'attendrait à ce que je vous parle de la souffrance et donc du sacrifice que le Père va faire de son Fils et le Fils dans sa dimension sacrificielle obéissante. On a un schéma ici qui est important pour comprendre l'Eucharistie, mais qui n'est pas celui qu'utilise Maritain dans ce paragraphe. Maritain insiste sur la souffrance de Dieu pour comprendre un rapprochement de Dieu avec nous et pour sortir de manière radicale et définitive de ce que j'appelle un Dieu jupitérien, c'est-à-dire un Dieu au-dessus qui sait tout d'avance, une sorte de préscience divine et qui, articulé au mal, pourrait pratiquement tomber dans une figure d'un Dieu pervers. Si Dieu sait tout et qu'il autorise le mal, ne sommes-nous pas des marionnettes façon antique, c'est-à-dire menées par une divinité, par un devin qui sait à l'avance? Voilà, une sorte de réécriture du mythe d'Oedipe, d'un Tirésias qui annonce à ses parents que ce petit tuera son père, épousera sa mère. Et dans ce cas-là, la question du mal ne trouve pas de véritable réponse. Le paragraphe que nous venons de lire insiste sur la compassion. Selon l'étymologie, passion, c'est le pâtir, c'est le fait de recevoir, et dans un deuxième temps, d'être affecté, et dans un troisième temps, au sens fort, d'assumer cette affection et d'assumer la souffrance qui l'accompagne. Donc c'est la passion avec un grand P. Cum, préfixe qui veut dire l'accompagnement, veut dire que Dieu souffre avec. Vous avez ici la réécriture de la parabole de l'enfant prodigue. Quand le père dit oui au plus jeune des deux fils qui demande la part de son héritage, pour l'avoir tout de suite et en user, le père, on peut supposer qu'il est bien triste et qu'il accompagne son fils même à distance. Il peut imaginer la dépense que va faire son fils et peut-être la situation difficile dans laquelle il va se trouver, puisque, vous le savez, le fils est ravalé au rang de gardien de cochon et au rang même de cochon, manger la nourriture des pourceaux. Le père peut, par prescience, par expérience, imaginer la situation existentielle difficile de son fils et endurer, d'une certaine manière, sa souffrance. Quel est l'indice dans l'Évangile qui nous montre qu'il y a une compassion du père? C'est tout simplement le fait qu'il soit un veilleur, qu'il attend et guette le retour de son fils, et quand il le voit arriver de loin, il court à sa rencontre, se jette à son cou, etc. Donc ici, cette présence du père qui attend en espérance le retour de son fils s'accompagne implicitement d'une compassion. Cette compassion, c'est celle du Père des cieux pour nous, pour les enfants, et l'idée, c'est d'atténuer la distance que nous pourrions mettre entre un père lointain et refaire un dieu jupitérien. Cette tendance à avoir toujours un père qui peut être un père fouettard, un père qui corrige, un père qui juge, elle est en nous. C'est ce que saint Paul écrit quand il dit « Le vieil homme en moi est toujours là ». Le vieil homme cohabite avec l'homme nouveau et toute la délicatesse et la pédagogie du Christ, c'est de nous faire comprendre cette proximité du Père. Maritain continue cette lecture de l'Évangile en la transposant en philosophie et la suite de ce paragraphe est la suivante. Au problème du mal, pris dans toutes ses dimensions, il n'y a qu'une seule réponse, celle de la foi dans son intégrité. Et au cœur de la foi, il y a cette certitude que Dieu, Jésus l'a dit de toutes les manières, a pour nous les sentiments d'un Père. Que la prière du Notre Père, donnée par le Christ, commence par « Abba », c'est-à-dire un diminutif, presque un hypocoristique, ces mots tendres que l'on peut prononcer en hébreu, montre la volonté du Christ de nous faire comprendre cette proximité du Père. C'est comme si le Christ nous livrait une intimité de son cœur par ce mot « Abba, Père ». L'intimité de son dialogue avec son Père, intimité à laquelle nous n'avons pas accès, mais que nous pouvons un peu pressentir avec ses interstices de sens, en quelque sorte, ses petits mots placés ici et là dans le texte évangélique. Et Maritain termine ce paragraphe. Était-ce un vieux philosophe, bon tout au plus à tâcher d'ouvrir quelques portes, d'oser aborder devant vous, en essayant de montrer qu'il ne faut pas le laisser seulement au poète, mais s'efforcer de l'intégrer à la théologie, le grand mystère de ce qui, en Dieu, infiniment parfait et infiniment bienheureux, correspond à ce que la douleur est en nous. Non, quant à l'effrayante marque d'imperfection qu'elle comporte, mais quant à l'incomparable grandeur qu'elle décèle aussi. Donc ici, aborder la question du mal, c'est ne pas laisser uniquement aux poètes. Pourquoi les poètes? Parce que dans « Dieu et la permission du mal » en 1963, rédigé ici à Toulouse, Maritain s'arrête très souvent sur les poètes dits maudits qui ont essayé de penser le mal. Et je vais simplement vous citer une citation, une référence de Lautréamont. Donc Lautréamont, justement auteur de la fin du XIXe siècle, maudit que Maritain va commenter. Lautréamont énonce lui-même un paradoxe bien remarquable quand, à la fin de sa courte vie, il écrit dans sa préface à des poèmes futurs, en son langage de poète, deux points. Ouvrez les guillemets. Si l'on se rappelle, la vérité d'où découlent toutes les autres, la bonté absolue de Dieu et son ignorance absolue du mal, les sophismes s'effondreront d'eux-mêmes. Nous n'avons pas le droit d'interroger le Créateur sur quoi que ce soit. Et il ajoutait, retenons ce mot en passant, toute l'eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuel. Commentaire de Maritain. Lautréamont s'exprimait de travers, en disant que Dieu ignore absolument le mal. Dieu connaît le mal, bien sûr, et il le connaît parfaitement, par le bien dont le mal est la privation. Mais ce que Lautréamont voulait dire, c'est que Dieu est absolument innocent du mal. Et c'est aussi que Dieu n'a pas l'idée ou l'intention du mal. Il n'y a en Dieu, comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin, aucune idée, aucune matrice intelligible du mal. Quel est le reproche de Lautréamont ? C'est de dire « On ne fait pas assez confiance à la définition de Dieu, c'est la bonté absolue de Dieu et son ignorance absolue du mal, au sens repris par Maritain, c'est-à-dire Dieu est absolument innocent du mal. » Je rappelle, le mal est la privation du bien, et donc par privation du bien, Dieu a une connaissance du mal. Ce que Maritain veut dire, c'est que ce rapport au mal en Dieu ouvre un mystère par rapport à ce que la douleur est en nous, et non pas par rapport à une imperfection de Dieu. La différence est considérable, c'est que souvent on voit le mal comme une imperfection de Dieu et comme une contradiction qui fait qu'on dit « je ne crois pas en Dieu puisqu'il y a le mal sur terre ». C'est souvent l'argument de base des agnostiques ou des athées. Maritain fait une distinction. La douleur, la souffrance rapproche Dieu de l'homme en lui donnant une autre dimension parfaite et infinie de l'ordre du mystère. Mais elle n'est pas du tout l'indice d'un manquement de Dieu, d'une limitation de Dieu. Quelle pourrait être cette perfection ? Alors je vais emprunter une citation de Claudel dont on fête l'anniversaire de la mort cette année. Claudel dit « Dieu n'a pas aboli la souffrance, mais il l'a habitée de sa présence. » Oui, le mystère de la croix, c'est l'inhabitation christique de toute douleur, de toute souffrance, en consentant à la mort infâme. Elle est infâme au plan physique. Je crois que les études ont été assez poussées pour étudier ce que c'était que la crucifixion. Je crois qu'on meurt d'étouffement. On est quand même très impacté dans son corps avec des clous, avec l'exposition au soleil à 3 heures de l'après-midi. Et vous rajoutez à cela la torture du Christ avant la passion, les coups de fouet, les crachats, la couronne d'épines, plus le chemin de croix, le calvaire. Donc on a un Christ épuisé, torturé, qui prend un supplice physique épouvantable. Mais la souffrance morale est probablement encore plus grande, parce qu'il porte le péché du monde. Autrement dit, la souffrance du Christ en croix est telle qu'il habite de manière radicale de sa présence, pour toute souffrance. Et cet acte de souffrance, de rédemption, va permettre de vaincre le mal. Donc si on prend le premier plan, le plan tout simple d'inhabitation, c'est déjà une consolation pour tout non-croyant ou tout agnostique. La deuxième interprétation, l'interprétation du croyant, c'est la rédemption totale, c'est la victoire absolue de Dieu sur le prince de ce monde. J'ai vaincu le prince de ce monde. Cette réflexion, je vous propose de la poursuivre en méditant un magnifique choral qu'on écoutera peut-être pas dans son entier, j'essaierai de le couper au bon moment. Il est extrait de l'Orgelbüchlein de Jean-Sébastien Bach, ouvrage de 45 chorales composé selon le temps liturgique et en même temps selon une volonté pédagogique. Bach écrivait ses chorales avec des différentes difficultés pour ses fils et ses élèves. Ce choral appartient au cycle de la Passion. Il est intitulé « O Mensch, bewein deine Sünde groß, O homme, pleure sur tes lourds péchés » et il convient particulièrement bien à cette réflexion méditative sur le mal. impossible de résister à la beauté profonde de ce choral dont vous avez remarqué les dissonances ainsi que des cellules et des motifs que vous retrouvez dans les passions, notamment cette cellule du portement de croix avec des notes de deux en deux, ta 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 ta. C'est vraiment le portement de croix, la passion, telle qu'elle est décrite dans les deux passions, selon Saint Jean et selon Saint Matthieu, et dans les cantates et dans d'autres chorales. C'est une écriture, on va dire, figurative, dont Jean-Sébastien Bach est coutumier. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une crypto-interprétation fondée sur les chiffres, etc. Mais malgré tout, dans le sens, on va dire, très médiéval, d'une symbolique des chiffres, des nombres et de la réalité musicale, harmonique, eh bien, on a une écriture qui est profonde parce qu'elle utilise ce langage rhétorique de l'écriture. Je vais en donner un autre exemple dans l'émission suivante avec un autre choral que j'essaierai de commenter un petit peu, pour le plaisir de faire des ponts entre texte, musique et philosophie. Alors, pour conclure notre émission, comment rejoindre finalement cette infinité de Dieu dans ce mystère de la douleur qui achève sa perfection ? Au lieu de montrer le manque chez Dieu, souvent c'est une raison, ce paradoxe du mal donne un argument pour les non-croyants en disant « non, impossible ». Alors qu'ici, Maritain a retourné la situation. Et donc, comment pourrions-nous, nous tendre à cette divinisation, nous connaturaliser en quelque sorte à Dieu dans cette tendance qu'il a à toujours creuser en lui l'attente, la compassion, le Père pour le Fils prodigue, la douleur en Dieu qui est une sorte de perfection? Eh bien, tout simplement, par le don. Par le don de soi, qui fait qu'il y a un oubli de soi, un don total, et c'est finalement ce signe tangible qu'est le don de soi qui sera le signe d'une réceptivité de l'esprit, autrement dit d'une sensibilité, d'une porosité à l'inhabitation de l'esprit en nous. C'est ce que Maritain désigne par la contemplation, par cette suprême sagesse, en disant qu'elle ne s'arrête pas à l'intellect, c'est-à-dire à savoir. On pourrait dire qu'il y a une sagesse qui vient d'une science, confère toutes les morales proposées pour vivre. Le stoïcisme, l'épicurisme sont des morales pour vivre, des sagesses pourrait-on dire, ou pas, ou des folies. Mais justement, leur problème vient de ce qu'il n'y a pas cette descente profonde dans le cœur. Donc je vais terminer notre émission de cette semaine sur cette ouverture de descente de la tête au cœur pour continuer la semaine prochaine sur les implications du don de soi, c'est-à-dire de la suite, du fait de suivre l'Esprit Saint et ses motions dans ce qu'il nous dicte, il nous inspire. La suprême sagesse, écrit Maritain, et la suprême contemplation ne sont plus le sommet de la science de l'homme et de sa philosophie. Parce que la contemplation, pour Aristote, c'est la dernière partie du livre 10 de l'éthique à Nicomaque. Mais ce n'est pas le même sens que la contemplation au sens chrétien et mystique. Mais l'abîme, en lui du don de l'esprit incréé, lui faisant pâtir ses passions, dans la foi, par la charité et l'union d'amour, cela même que nul effort de l'intelligence humaine ne peut circonscrire, et les choses de Dieu comme inconnues. La notion même de contemplation change de sens, parce qu'elle désigne désormais une expérience où l'amour instruit l'intellect et une communion à travers le voile avec la vérité, la vie et la bonté subsistante qui est l'œuvre de la charité sous la touche même de Dieu. La contemplation chrétienne n'est pas pour la perfection de celui qui contemple, et ne s'arrête pas dans l'intellect comme la contemplation des philosophes. Elle est pour l'amour de celui qui est contemplé et ne s'arrête pas dans l'intellect pour savoir, mais passe dans le cœur pour aimer, parce qu'elle-même procède de l'amour. Et pour la même raison, elle ne s'arrête pas dans un accomplissement théorétique, mais surabonde en action.